Trèville BM. La voix est libre.
On behalf of our nation, I want to apologize to Brett and the entire Kavanaugh family for the terrible pain and suffering you have been forced to endure.
Voici Luc Lavoie.
Ben, c'était le président Trump donc qui s'excusait pour le mauvais traitement, dit-il, qu'a subi son nouveau juge à la Cour suprême, M. Kavanaugh. Luc Lavoie, bonjour.
Salut, Bernard.
Est-ce que c'est ton bon ou ton... Alors d'abord, Facebook Live, bonjour tout le monde, bonjour. On est content de vous voir, une très bonne écoute. Alors, c'est ton bon ou ton mauvais coup?
C'est un mauvais coup, certainement. Tu sais, Brett Kavanaugh, c'est qui ce gars-là, finalement? Là? Tu sais, c'est un gars qui faisait partie de l'espèce de mouvance d'extrême droite quand Clinton était au pouvoir. Il s'est retrouvé sur l'équipe de Kenneth Starr, le procureur spécial qui avait essayé d'accuser Trump Clinton de toutes sortes de choses.
Puis qui finalement a découvert l'affaire de Lewinsky. Là,
ben hein? Oui, c'est ça. Puis là, quand il est venu le temps d'interroger Clinton, c'est Kavanaugh qui a écrit des questions de type la taille de son pénis, est-il vrai qu'on peut y trouver un point de beauté? C'était Kavanaugh qui les a écrites. Kavanaugh, c'est un petit bourgeois catholique de Washington qui s'est associé à tout ce qui était l'extrême droite. Tout ce qui était l'extrême droite.
Extrême droite ou droite radicale? Parce que pour moi je fais une distinction entre les deux.
Oui, elle est valable, ta distinction. Je dirais droite radicale. Okay. Droite radicale.
Donc, c'est pas un raciste affiché, là?
Non, non.
Mais c'est un gars qui...
Ben, l'avortement, il est contre ça.
Valeur religieuse très forte.
Valeur religieuse très, très forte. Mariage gay, toutes ces affaires-là que les gens considèrent souvent comme ayant été des avancements, le droit à l'avortement, le droit au mariage gay, ça, là, c'est sous menace énorme.
Oui.
Et Kavanaugh, ben, ça a été un spectacle de mauvais goût. C'est le deuxième juge qu'il nommait. Il a nommé Gorsuch avant, qui était beaucoup moins controversé. C'était un gars qui venait de la mouvance de droite, mais c'était d'abord et avant tout un intellectuel du droit, et ça, personne n'a pu le remettre en question. Kavanaugh, c'était un gars de party aussi. Bon, alors...
Toi là, d'ailleurs, là, est-ce que tu crois... Moi, je suis absolument convaincu que Mme Ford a dit la vérité. Okay? Je suis absolument convaincu qu'elle a dit la vérité.
Je ne vois pas comment elle aurait pu mentir.
Mais tu as vu ce qui a été rapporté par ceux qui, finalement, ont voté pour ratifier la candidature de Kavanaugh. Ils ont dit, on ne doute pas qu'elle a été violée, mais ou qu'elle a subi l'agression qu'elle a racontée, mais... On n'est pas certain que c'était Kavanaugh vraiment l'agresseur. Et c'est pour ça, finalement, qu'on vote pour le ratifier. Qu'est-ce que tu réponds à cet argument-là? Parce que ultimement, c'est l'argument qui a emporté la majorité au Sénat. C'est pas rien, le Sénat aux États-Unis, Luc. C'est pas une gang de faillés qui siègent là-dessus. D'ailleurs, nombre de femmes y siègent et ont voté, finalement, pour ratifier Kavanaugh. Moi, je suis tombé sur le derrière quand j'ai vu qu'il passait. J'étais certain que ça allait pas passer. Puis ça a passé pareil.
Puis en plus, ça a fait monter Trump dans les sondages, oublions pas ça. Là. C'est que tout ça a été très, très mal joué par toutes les parties impliquées. Les démocrates ont pris de drôles de positions. Y a-t-il eu un rôle joué par des démocrates pour convaincre Mme Ford de sortir au moment précis où elle est sortie plutôt qu'avant?
Ça, pour toi, ça reste une question?
Ben, oui, ça reste une question.
Donc, là-dessus, les républicains avaient peut-être une poignée pour discréditer son témoignage. Parce que c'est ça qu'ils ont dit. Ils ont dit finalement, Madame Ford, c'est une, tu sais, il y a personne qui, il y a personne qui a attaqué Ford, c'est pas vrai. Trump a attaqué Ford.
Trump l'a attaqué, mais comme c'est pas possible.
Mais
là.
J'allais dire l'argument, leur argument en fait pour contourner le témoignage très convaincant de Ford, ça a été de dire dans le fond, les démocrates ont joué une game partisane puis se sont brûlés les doigts en jouant une game partisane.
C'est l'argument principal des républicains. Mais ce que ça a fait comme débat, c'est que toute l'espèce de base républicaine qui était autour de Trump, qui a choisi Trump, commençait à s'effriter là, parce que ça allait de moins en moins bien pour lui. Puis il y en a qui commençaient à... Il n'avait pas changé d'idée.
Il commençait à douter un peu.
Soudainement, ça a créé un ralliement autour de lui, suffisant peut-être pour que les élections de mi-mandat ne soient pas ce qu'on s'attendait. Mais moi, ce que je trouve plus grave, et j'y reviens, c'est que quand on voit les deux nominations en Cour suprême, une qui est acceptable, l'autre, à mon avis, celle de Kavanaugh qui ne l'est pas, on oublie qu'est-ce qu'il y a derrière ça. C'est que M. Trump, il nomme les juges de l'équivalent de nos cours d'appel aussi, puis il nomme ce qu'on appelle les cours de district fédéral. Il en nomme des dizaines.
Il est en train de pacter le système judiciaire.
Il est en train de pacter le système judiciaire de gens aux idées très, très à droite, très habitées par les croyances des religieux.
Ben oui. Les évangélistes.
Les évangélistes. Donc, avortement, tout ce qui concerne aussi l'intervention sociale de l'État, Obamacare, il est en train de nommer. Écoute, il y en a un qui a été nommé dans une cour d'appel, là, qui a jamais, c'est un avocat de formation, il n'a jamais pratiqué le droit, puis il n'a jamais présidé un procès, ni même participé à un procès. Il a travaillé dans le monde économique privé.
Mais il est de droite, fait qu'il se qualifie.
C'est ça. Puis là, il y en a qui ont dit, avez-vous, il y a un des... quelqu'un qui a posé la question, « Avez-vous déjà participé à un procès? » Non, c'est pas grave, je me rappelle de mes études. Oh! Ce sont des cours importantes parce que la Cour suprême des États-Unis, comme la Cour suprême du Canada, ne peut pas entendre toutes les causes. Elle choisit des causes qu'elle considère être importantes à régler parce qu'il y a une zone de flou, peu importe. Mais en bout de ligne, ils vont entendre, je ne sais pas, 25 causes par année. C'est la Cour fédérale d'appel qui est la cour principale où se prennent les décisions. C'est généralement là que ça s'arrête.
Et là, Trump est en train de...
Là, tu vois, tu regardes juste une statistique ici. Là. Ça remonte en septembre. Obama, lui, quand il nommait des juges, là, il nommait 43,6% de ces juges-là étaient des femmes. OK? Puis qui n'étaient pas des blancs traditionnels, 34,5. Donc, des gens qui n'étaient pas des blancs. L'autre, là, M. Trump, lui, c'est 23% de femmes, 11% de gens qui ne sont pas des blancs traditionnels. Il est en train d'arriver à remplir...
Donc, l'Amérique non blanche, entre guillemets, là, ouais. Elle n'est plus très, très représentée.
Plus du tout. Plus du tout.
Et les femmes ne représentent même pas le quart des juges nommés par Trump.
Exactement. Et il faut se souvenir que ce qu'il est en train de faire, ça va avoir des conséquences sur la vie sociale américaine, juridique, évidemment, mais ultimement sociale, pour 25 ans à venir. Ben là, c'est renversant.
Puis moi, j'allais te dire, pour enchérir... La raison pour laquelle la droite religieuse s'est ralliée à la candidature de Kavanaugh puis a cabalé auprès des élus républicains pour qu'ils votent en faveur de la ratification, c'est que la bataille prioritaire de la droite religieuse depuis nombre d'années, c'est de diminuer l'accès à l'avortement. C'est de renforcer ce qu'ils appellent Roe versus Wade, là, c'est le jugement fort.
C'est le jugement qui a autorisé, légalisé l'avortement aux États-Unis et qui remonte à 1972.
Exact.
Il faut pas oublier ça. Là.
Et la droite républicaine, la droite religieuse, pense qu'en nommant Kavanaugh, ils viennent de mettre en place les conditions pour démanteler le droit à l'avortement.
Exactement.
Pour les femmes américaines.
Exactement. Puis en plus, le juge que Kavanaugh remplace, le juge Kennedy, c'était un juge considéré conservateur, mais qui a été des deux côtés, voilà. Dépendant des causes qui se sont trouvées devant lui. Il était ce qu'eux autres appellent le flip vote. Tu savais jamais où il allait aller. Kavanaugh, tu le sais. Là. Tout ce qui va être à droite, il va être là. Et là, ils sont 5 sur 9. Ils vont contrôler la Cour suprême. Et ils vont contrôler les cours inférieures. Bon, la démocratie a parlé, hein? Que voulez-vous? Comme dirait Jean Chrétien, que voulez-vous? La démocratie a parlé. C'est ça qu'ils ont voulu avoir.
Jean Chrétien disait, que voulez-vous? C'est ça le Canada.
Ah, ouais,
mais que voulez-vous? C'est ça les États-Unis.
Mais hein? C'est ça les États-Unis dorénavant.
Les États-Unis de Trump.
Est-ce que les gens réalisaient qu'ils étaient en train de déclencher une révolution aussi fondamentale pour les institutions américaines et pour la société américaine? Laisse-moi en douter.
790-9850, est-ce que vous partagez les inquiétudes de Luc Lavoie sur cette nomination de Kavanaugh et sur le fait que, dans le fond, le Parti républicain et l'administration Trump sont en train de créer les conditions par lesquelles les tribunaux américains vont non seulement être menottés, Luc, vont rendre des décisions qui vont faire reculer l'Amérique sur un certain nombre de droits qui ont été...
Mais vu par la droite, eux autres trouvent qu'ils vont faire avancer l'Amérique vers davantage de vertus.
Bien sûr, absolument, absolument. Alors. En faisant reculer les droits de la femme sur l'avortement, en faisant reculer les droits des gays et tout le reste, en faisant avancer les droits des propriétaires d'armes à feu, pour eux autres, c'est tous des progrès, c'est toutes des avancées, cela.
Il faut le faire, mais quand tu penses que ce grand pays, c'est aussi le pays de... quelques-uns des plus grands progressistes, d'écrivains extraordinaires et tout. Mais soudainement, on dirait que tout ce qui est religieux, puis tout ce qui ne s'attache pas aux faits, puis c'est ça qui est en train de dominer cette société-là. La violence, l'insulte, tout ce processus-là de Kavanaugh, c'est assez dégoûtant ce qui se passe aux États-Unis.
La culture civique américaine est en train de passer au hachoir à viande.
Et le dommage qu'il est en train d'infliger à cette société-là, enfin. peut-être. Mais j'ai hâte
On a hâte aux midterms, hein?
Aux midterms, mais encore une fois, fais attention, il est en train de monter.
Je sais, j'observe la même chose que toi. Patrick, bonjour.
Salut, ça va bien?
Très bien. Est-ce que vous êtes inquiet, vous aussi, ou est-ce que vous pensez qu'on est inquiet pour rien, nous autres, là?
Ben, moi, ce qui m'inquiète le plus, là, c'est que je vous ai écouté parler, puis vous dites que le juge Kavanaugh, c'est celui qui pourrait pencher dans la balance le pour et le contre l'avortement. Puis on vient de l'accuser d'être un genre de violeur. Puis d'habitude, tu sais, les violeurs, c'est comme ceux qui mettent enceinte des femmes qui ont besoin après ça. Tu sais, dans le fond, le droit à l'avortement, ça reste en ça. Si tu fais faire un enfant par quelqu'un que tu veux pas, ben au moins, tu as le droit de dire que tu n'en veux pas. Là, lui, il va aller faire des... Tu sais, je dis lui, là, mais je parle du comportement humain qu'il a adopté envers les autres. Ben, tu sais, c'est exactement le comportement que...
Vous avez raison.
On peut pas donner le droit à quelqu'un de dire l'avortement, c'est fini, puis que ses antécédents à lui, ben... c'était de faire des trucs qui pouvaient mettre en danger ou mettre en scène d'autres femmes.
Merci, Patrick.
Les gens vont toujours mettre en doute sa bonne foi à Kavanaugh.
En passant, il y a Timothée qui nous écrit pour dire que Kavanaugh est catholique.
Oui, il est catholique.
Oui, et vous avez raison, Timothée, il est catholique, mais c'est une...
très pratiquant.
Chez les catholiques, il y a un catholicisme intégriste.
Oui, et de droite.
Et il est passablement intégriste, oui, M. Kavanaugh. On s'en va rejoindre, me dites-vous. Jean, bonjour Jean.
Oui, bonjour. Moi, je pense que c'est la pire chose qui a pu se passer aux États-Unis. D'abord, c'est l'élection de Trump, puis ensuite la nomination du juge Kavanaugh. Qu'il soit dit en passant, on semble oublier que le juge Kavanaugh, il y a 30 quelques années, ce qu'il a essayé de faire, c'est qu'il a essayé de violenter une mineure qui avait 15 ans. On l'oublie, celle-là. On pense juste au fait que, tu sais, non, c'est désolé, moi, je pense que Trump a fait en sorte qu'il a placé des gens là où, quand ça va être son tour de passer au bat et que l'ensemble de la population va essayer de le rejeter ou quoi que ce soit, il va avoir les cours pour lui. Pourquoi? Parce qu'il les a nommés lui-même.
Vous avez tellement raison, monsieur, parce qu'on sait qu'une des positions qui a beaucoup plu à Trump et qui l'a convaincu de choisir Kavanaugh, c'est que Kavanaugh soutient depuis pas mal longtemps que le président des États-Unis devrait jouir d'une immunité complète contre toute forme d'accusation criminelle ou toute poursuite civile.
Et Kavanaugh est de cet avis?
Oui, il est complètement de cet avis. Alors, tu imagines ce que ça va donner, ça?
Merci, Jean, pour l'appel. On va s'arrêter, Luc, parce qu'il faut se garder du temps pour ta bonne nouvelle du jour. On va en apprendre davantage sur ton bon coup tout de suite après la pause.
Drainville PM. La voix est libre. Voici Luc Lavoie.
Alors, de retour avec La voix est libre. Luc, tu nous as fait part de ton mauvais coup. Maintenant, ton bon coup, ta tape dans le dos du jour.
C'est la création de la Fondation pour la langue française. Enfin, quelque chose de positif, de constructif pour défendre la langue française, son épanouissement et son rayonnement. C'est une émanation, et jamais un jour je penserais dire que la Société Saint-Jean-Baptiste a fait un bon coup, mais au départ, c'est la Société Saint-Jean-Baptiste qui était derrière ça à travers une fondation qui s'appelait la Fondation Langelier. Mais là, ils ont créé cette nouvelle organisation. Il va y avoir Danny Laferrière, l'académicien, l'éternel parmi les éternels, qui va être le président d'honneur. Il y a Thomas Clorando également, qui fait partie du conseil. Et c'est des gens qui, cette organisation-là, se donne pour mission, d'au-delà de l'enseignement du français, de faire vivre les gens qui arrivent ici, les nouveaux arrivants, leur faire vivre la réalité. On va aller au cinéma et voir un film québécois. On va y aller avec vous, d'ailleurs. On va aller voir une pièce de théâtre en français, puis on va aller cueillir les pommes de Rougemont en français.
C'est ça.
Puis on va faire des activités très québécoises en français qui vont faire que la langue française ne demeurera pas quelque chose de théorique et d'obligatoire. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, une campagne de promotion du français en tant que langue des affaires. Il va lancer une série de capsules là, pour ne pas copier ce que les Français font en parlant des start-up et ainsi de suite.
Ouais, ouais, ouais.
Mais ils vont essayer aussi de faire en sorte que les sportifs de haut niveau acceptent de travailler un peu sur la langue. On me dit que on vise principalement les Alouettes de Montréal, l'Impact et évidemment les Canadiens de Montréal. Et on a reçu Mme Sigouin, je crois qu'est son nom, qui est celle qui est la directrice générale ou qui est la vice-présidente de l'organisation, et qui nous disait que le contact avec les trois équipes était plutôt bienvenu. Et que, par exemple, moi, j'ai pas pu m'empêcher de dire « Comment allez-vous travailler sur le cas chez Weber? » Moi, j'ai grandi avec des capitaines des Canadiens de Montréal jusqu'à Pierre Turgeon, qui parlait toujours français, puis soudainement, hop! Terminé.
Y compris Bob Gainey puis Larry Robinson,
oui,
qui l'avaient appris.
Ils l'ont appris.
C'est un français cassé, mais on était content qu'il nous parle en français.
Mais il parlait un français, là.
On les comprenait très bien. Ouais, voilà.
Alors, peut-être qu'on va voir un Shea Weber se franciser. Qui sait? En tout cas, moi, un Johnny Manziel qui va peut-être se franciser des Alouettes.
Ouais.
Je sais pas s'ils vont y parvenir.
Mais je sais pas s'ils vont le garder, lui. Fait que là.
Ouais, ça, c'est une autre
mais
histoire.
Mais Weber, on sait qu'on l'a pour une couple d'années, là.
Ouais, ouais. Hein? Weber, ce serait, écoute, puis présentement, là, il n'y a pas trop de travail, là. Je veux dire,
il pourrait se mettre au français.
Moi, je serais plutôt fier de voir ça.
Moi aussi.
Moi, j'aime ça, ce genre d'initiative. C'est pas du militantisme. C'est pas revendicateur. C'est carrément positif.
Ouais.
Moi aussi, je suis un amant de la langue française.
Ouais.
C'est la langue dans laquelle, comme disait un jour quelqu'un, si tu veux connaître ta vraie langue, demande-toi dans quelle langue tu rêves. Moi, je rêve en français.
Uh-huh.
Et des initiatives comme celle-là, qui sont pas toujours des mouvements politiques pour un puis contre l'autre. Je trouve ça extraordinaire. Et
ce que j'aime, moi, là, je suis d'accord avec toi, ce que j'aime aussi, c'est la société civile, comme on l'appelle, là, qui prend l'initiative. On n'attend pas après le gouvernement.
Exactement.
On n'attend pas après une subvention, un programme, un ministère. C'est Daniel Laferrière, la Société Saint-Jean-Baptiste, puis des amants de la langue qui décident, on va faire quelque chose. On n'attendra pas après les autres.
Puis surtout, ça, on va associer la langue française, l'apprentissage de la langue française et son usage à quelque chose qui est une forme de plaisir.
Oui.
C'est une langue qui donne effectivement du plaisir. Elle permet, tu sais, parler une langue, c'est beaucoup plus qu'une forme de communication, c'est une forme de structure de la pensée.
Absolument.
Et la structure de la pensée française, elle est unique, et en ce sens-là, c'est ce qui fait de nous un genre de peuple unique en Amérique du Nord.
Oh, c'est Luc Lavoie qui l'a dit. C'est Luc Lavoie qui l'a dit.
Mais oui,
t'es quasiment en train de tenir un langage nationaliste.
Oui, c'est pour vous mélanger. c'est pour vous mélanger. Je vous attends au coin de la rue.
merci, Luc Lavoie. C'est effectivement une très bonne nouvelle. Et je suis content que t'en aies parlé. Parce que, des fois, là, parler de la langue, là,
c'est tout le temps revendicateur.
C'est pas juste ça, c'est que c'est perçu comme quelque chose d'un peu ringard, un peu dépassé. Ben, la langue, c'est le combat des années 70. Tu comprends? Il y en a qui tiennent ce langage-là. Puis toi, qu'on peut pas soupçonner trop d'être de cette mouvance-là. Quand tu arrives, puis tu dis, ben écoutez, moi je vois du bon là-dedans, puis je vois du beau là-dedans, puis c'est très positif. Ben, je pense que ça envoie un message, un beau message.
J'aimerais ça qu'un gouvernement emboîte le pas en disant « Nous allons améliorer l'enseignement du français dans nos écoles publiques. »
Oui.
Vraiment, là. Pas au
hasard. Ah, OK. Pas juste la francisation, là.
Non, non.
L'enseignement, là.
Que je veux que les Québécois comme nous, là, les deux souches, là, qu'on sache écrire puis parler.
Mais pas juste les deux souches. Tout le monde.
Tout le monde.
Parce que les enfants de la loi 101, les enfants de la loi 101, là, Luc, là, écoute, très souvent, là, tu rencontres des enfants de la loi 101, là, première, deuxième génération, ils parlent un français, mon gars, impeccable.
Ouais.
Puis ils viennent de familles immigrantes pour qui l'éducation est très valorisée. Et le message qu'ils ont reçu, ces enfants-là, là, c'est tant qu'à apprendre la langue, là, puis t'en parles déjà une ou deux ou trois là, dans ces familles-là parfois, hein, ils parlent deux puis trois langues, tant qu'à la parler, parle-la donc comme faux.
On a beaucoup à apprendre des immigrants.
Les
immigrants, quand ils arrivent ici, les enfants à l'école, c'est pas négociable, puis les résultats, on les attend, parce qu'ils se disent, on a quitté un pays qu'on n'aimait plus pour 56 000 raisons. On va tirer parti de ce qui nous est offert.
Voilà.
Ils sont en train de devenir une sorte d'élite à Montréal, ces gens-là.
Absolument, puis c'est très bien ainsi.
Par la maîtrise de trois puis quatre langues, déjà, c'est énorme.
Puis ils tirent toute la société québécoise vers le haut, puis on s'en réjouit. Luc Lavoie, merci.
Merci.
On va s'arrêter parce qu'au retour, on veut faire le point sur l'ouragan Michael, qui va frapper la Floride, puis il y a cette espèce de marée toxique à travers ça, là, dans un instant.